France Culture, 7h-9h, les matins d'été, Chloé Cambrelin.
Pas question de lâcher. Celles et ceux qui dénoncent la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur le disent haut et fort. Elles et ils maintiendront la pression tout l'été et après. L'ancien ministre du Budget est visé par une accusation de viol. Classée sans suite dans un premier temps, la procédure a été relancée par la cour d'appel qui a demandé de nouvelles investigations le mois dernier. À Paris, la majorité municipale est secouée par une autre affaire. La semaine dernière, l'adjoint à la culture Christophe Girard a démissionné sous la pression d'élus écologistes et militantes féministes, estimant sa position intenable. Lui qui a été entendu dans le cadre de l'enquête pour viol sur mineur visant Gabriel Matzneff. Jeudi dernier, un rassemblement avait été organisé devant l'hôtel de ville avec des pancartes au slogan comme « Mérite Paris, bienvenue à Pédolande ». Hier soir, Mediapart nous apprenait aussi que les services municipaux ont découvert avant cette manifestation, trois notes de frais de repas entre l'élu et l'écrivain réglées par la ville. Anne Hidalgo en a informé le parquet de Paris. Au gouvernement, on soutient Gérald Darmanin au nom de la présomption d'innocence. À Paris, la maire a défendu Christophe Girard, se demandant, je cite, « Dans quelle démocratie vivons-nous où le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons ?» Mais est-il seulement question de droit dans ces deux cas? Que disent ces affaires des évolutions de la société et de la capacité du politique à les absorber? Avec nous ce matin, Laurence Rossignol, bonjour.
Bonjour.
Sénatrice socialiste de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes, ancienne ministre des familles, de l'enfance et des droits des femmes, c'était sous François Hollande. Laurence Rossignol, vous avez très vite dit que Gérald Darmanin n'était pas à sa place au ministère de l'Intérieur. Selon vous, il n'y a pas débat, il doit démissionner?
Je crois déjà qu'avant qu'on aborde le fond du dossier et la violence symbolique qu'a représenté cette nomination, on peut peut-être faire remarquer que Gérald Darmanin est l'objet d'une enquête préliminaire, qu'il est ministre de l'Intérieur, donc tutelle des policiers qui vont enquêter sur lui. Il y a déjà là une forme de conflit d'intérêts que chacun peut partager sans être pour autant féministe ou sensible au dossier sur lequel Gérald Darmanin est l'objet d'une enquête préliminaire.
Oui.
Ensuite, le deuxième sujet, c'est ce que signifie cette nomination. En fait, c'est pas tant Darmanin lui-même qui m'interpelle que le président de la République, le choix d'Emmanuel Macron de nommer Darmanin ministre de l'Intérieur. Et en fait, je crois que notre société a du mal à comprendre ce que le mouvement MeToo a provoqué et ce qu'il a provoqué comme attente des femmes. C'est-à-dire qu'on a cru qu'après MeToo, eh bien, la complaisance...
Laurence Rossignol, je suis désolée, je vais me permettre, pardon, de vous couper, mais on a des problèmes de liaison, on vous entend assez mal. Donc, on va faire une petite pause et on va vous rappeler peut-être au téléphone. Laurence Rossignol, mais d'accord, comme ça, on entendra mieux ce que vous nous dites. On vous retrouve dans un instant. Merci. Sur France Culture. Merci à vous. Allez, voilà, nous vous avons retrouvé, Laurence Rossignol. Désolée pour cette coupure, mais on vous entendait mal. Donc, nous parlons avec vous, Laurence Rossignol, sénatrice socialiste de l'Oise, présidente de l'Assemblée des femmes et ancienne ministre des droits des femmes. Du cas, donc, Gérald Darmanin, vous nous expliquez en quoi il était problématique qu'il soit particulièrement ministre de l'Intérieur, et je voudrais qu'on revienne là-dessus. Est-ce que finalement il pourrait être ministre d'autre chose, mais que le problème est spécifiquement lié à ce ministère de l'Intérieur?
Oui, un problème spécifique est une forme de conflit d'intérêts, c'est-à-dire que il est à la fois l'objet d'une enquête et le ministre de tutelle des policiers qui vont enquêter sur lui. C'est inimaginable si on essaye de rapporter ça dans d'autres domaines. Et puis aussi, il y a quelque chose de particulier qui est de l'ordre du symbolique, c'est que le ministère de l'Intérieur est un ministère pivot dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et que celui qui occupe ce ministère aujourd'hui n'est pas fréquentable de ce point de vue-là, il n'est pas exemplaire. Il y a aujourd'hui un besoin d'exemplarité qui va au-delà de la simple qualification juridique des faits ou de la condamnation ou non des faits. Mmh. Et donc, il y a une violence symbolique dans la nomination de M. Darmanin au ministère de l'Intérieur, c'est celle du président de la République qui a fait ce choix et qui révèle en fait que depuis MeToo, les femmes ont cru que tout le monde avait compris de quoi il s'agissait, que le harcèlement sexuel, les violences faites aux femmes, la connivence, la complaisance à l'égard des auteurs de violences allaient cesser et qu'on allait prendre en compte leurs paroles. Et ce que dit cette nomination, en fait, c'est que les femmes ont un peu parlé dans le vide et que le président de la République soit n'a pas totalement absorbé les discours qu'on lui écrit depuis 3 ans sur la grande cause du quinquennat, le Grenelle des violences, ou peut-être qu'il s'en contrefiche tout simplement. Ces sujets-là, en fait, restent et demeurent des sujets mineurs dans beaucoup d'institutions. Et c'est pour les femmes aujourd'hui un sujet majeur parce que c'est la possibilité pour elles d'aller librement, de travailler librement, d'avoir des relations humaines libres avec les hommes, sans être en permanence, comme elles le sont encore, sur le qui-vive, à se demander qu'est-ce qui va leur arriver comme proposition inconvenante, pas souhaitée, ou pire encore, comme agression sexuelle, voilà.
Alors en même temps, Laurence Rossignol, voilà, vous connaissez l'argument du gouvernement et pas seulement, d'ailleurs, des élus aussi qui soutiennent Gérald Darmanin, qui disent effectivement, il est à ce jour pas condamné, il n'est pas mis en examen, donc où mettons le curseur, à partir de quand considère-t-on que ça n'est pas possible d'être ou de rester ministre?
En fait, à côté de la sanction pénale, de la qualification pénale et de la sanction pénale des faits, il y a les faits en eux-mêmes et l'exigence d'exemplarité à l'égard des élus. Ce qui ressort des faits aujourd'hui, c'est que ces relations sexuelles ont bien eu lieu et qu'elles ont été obtenues et sollicitées dans le cadre d'un échange avec des femmes qui sont venues demander de l'aide à M. Darmanin. Et donc, cette usage du pouvoir, cet abus d'usage du pouvoir pour obtenir des faveurs sexuelles est tout aussi répréhensible que serait une rémunération en nature ou en argent d'un service qu'un élu peut rendre. Imaginez qu'un restaurateur, par exemple, vienne vous voir pour, moi je suis élu, vienne me voir pour me demander de l'aider sur un problème avec l'administration, par exemple, et que en échange de quoi, j'ai table ouverte dans son restaurant, tout le monde trouverait ça très choquant. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne les services sexuels, et c'est peut-être même encore pire, parce que d'un certain point de vue, ce qui nous est dit là, c'est que les violences sexuelles restent et demeurent des choses banales, avec lesquelles les institutions ne s'encombrent pas. En fin de compte, voler de l'argent, c'est grave. Faire du trafic d'influence, c'est grave. Être au cœur de dossiers d'avantages en nature, c'est grave. Mais monnayer son intervention d'élu contre des faveurs sexuelles, ce le serait moins. Donc ça veut dire que tout ce qu'on a répété et dit depuis MeToo, en fin de compte, n'a pas été entendu et métabolisé, digéré par ceux à qui on a parlé.
Alors justement, sur cette question de l'exemplarité, l'association récemment créée Pourvoir Féministe a décidé d'en appeler à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, notamment concernant le potentiel conflit d'intérêts que vous pointiez, Laurence Rossignol. Pensez-vous que ce soit dans ses cordes, à cette Haute Autorité, dont on rappelle qu'elle a été créée après l'affaire Cahuzac et qu'elle a pour mission de veiller à la probité des responsables publics?
Écoutez, en ce qui concerne ce type de comportement, celui qui est mis en cause aujourd'hui, il est clair que c'est une étape nouvelle. Comme vous le rappelez, la Haute Autorité a été créée après l'affaire Cahuzac parce qu'il a semblé au pouvoir public qu'il y avait une absence de transparence, un besoin de régulation sur des malversations et sur des comportements financiers. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est qu'il y a des comportements d'ordre d'abus sexuel qui continuent d'exister dans le monde politique, mais pas simplement dans le monde politique, en fait, dans beaucoup de lieux de pouvoir, et même parfois avec un tout petit pouvoir, il n'y a pas besoin de beaucoup de pouvoir pour s'en prendre aux femmes. Un peu suffit. Et donc, il faut qu'on se pose la question de la manière dont ces comportements sont sanctionnés dans le monde politique. C'est un problème déontologique. Ce n'est pas un problème juridique, c'est un problème déontologique. Par exemple, il est admis qu'un psychanalyste n'a pas de relation sexuelle avec sa patiente, qu'un médecin n'a pas de relation sexuelle avec ses patientes. Pourquoi admettrait-on, comme une banalité, qu'un homme politique, un homme de pouvoir, puisse en avoir avec les gens qui viennent lui demander de l'aide? Vous savez, les gens qu'on voit dans nos bureaux sont souvent des gens vulnérables. S'ils viennent nous voir, c'est parce qu'ils ont des soucis dont ils ne peuvent pas tout seuls se dépêtrer. Donc, ce sont des personnes qui sont en état de fragilité et l'abus de faiblesse à l'égard de ces personnes n'est pas acceptable.
Alors, il y a eu plusieurs tribunes réclamant la démission de Gérald Darmanin, notamment celle publiée sur Mediapart où 20 000 jeunes citoyens, citoyennes âgés de 13 à 25 ans exigent donc cette démission et écrivent « Nous sommes de cette génération engagée qui n'a plus peur, nous sommes la génération MeToo ». Est-ce que ce qui s'exprime là à travers cette affaire, c'est aussi justement une question de génération ?
Écoutez, moi je ne suis pas de la leur de génération et j'adhère à ce qu'ils disent. Mm. En fait, la question qui est posée, c'est celle qui est relevée lorsqu'on étudie l'application de la Convention d'Istanbul, qui est la Convention européenne sur les violences, sur l'éradication des violences faites aux femmes. Mm. Et le groupe d'analyse de cette convention relève que la France a un problème dans sa définition des violences sexuelles parce qu'elle ne retient pas comme définition l'absence de consentement libre. Et ce qui me frappe dans toutes les affaires qu'on a aujourd'hui, c'est que ce sont des affaires sur le consentement. En fin de compte, que dit M. Darmanin ? Il dit qu'elle était consentante. Elle était consentante. À chaque fois, dans les affaires de viol ou de violence sexuelle ou d'abus sur les femmes, les mises en cause arguent du consentement de la femme, et la femme dit « Non, je n'étais pas consentante, j'étais sous influence, j'étais sous emprise, j'étais sous contrainte, et mon consentement n'était pas libre. » Donc, il est quand même nécessaire qu'on ait un vrai débat juridique sur la question du consentement dans la définition des violences sexuelles, parce que aujourd'hui, il est toujours facile, en fait, de dire « il y a eu un non-lieu, il n'y a pas eu de sanction pénale, l'enquête n'a pas abouti », mais c'est pas pour autant que les violences sexuelles n'ont pas eu lieu. Malheureusement, on est dans un interstice qui est compliqué, où le droit ne dit pas tout en matière de prise en compte des violences sexuelles. Et on le sait très bien, parce que peu d'affaires sont portées devant la justice et une minorité d'affaires aboutit à une sanction pénale. Donc c'est ça qui nous est posé comme sujet. C'est quelle est la place du consentement? C'est ça que disent toutes les pétitions aujourd'hui. Et je crois qu'il faut soutenir ce mouvement. On est à un vrai moment charnière. Il se passe quelque chose d'important dans la confrontation entre l'attente des femmes et la résistance ou l'indifférence de la société et des institutions. Et ça s'est déjà produit dans le passé. Et j'observe aussi qu'on retourne contre les femmes qui s'expriment les mêmes critiques, les mêmes quolibets, les mêmes anathèmes que ceux qu'on a toujours retournés contre les féministes. Mmh. Elles sont violentes, elles sont hystériques, elles sont radicales, et on essaye d'opposer un féminisme radical à un féminisme raisonnable. Mais depuis les suffragistes, c'est comme ça. Déjà, on disait qu'il y avait des féministes raisonnables au début du XXe siècle, et puis des féministes radicales qui posaient des bombes en Angleterre pour obtenir le droit de vote. On l'a dit dans les années 70, des féministes qui manifestaient pour le droit à l'avortement et qui posaient aussi leur soutien-gorge. Celles-là étaient des radicales par rapport aux féministes d'après-guerre qui avaient obtenu le droit de vote. Donc, en permanence, on cherche à opposer féminisme radical, féminisme raisonnable. Or, je pense que le féminisme radical est consubstantiel au féminisme. C'est celui qui aussi dérange la société, interpelle la société.
Laurence Rossignol, j'évoquais en introduction le cas de Christophe Girard à la mairie de Paris. Est-ce que vous faites une différence entre ces deux affaires, sachant évidemment qu'il ne s'agit pas de la même chose, mais dans ce que ça exprime ?
Non, je pense que ces affaires expriment la même chose, c'est-à-dire qu'elles expriment un besoin d'exemplarité dans les conseils municipaux, au Parlement, au gouvernement, chez les élus, besoin d'exemplarité qui touche aussi le monde économique. Je vous rappelle que la dernière affaire qu'on a connue est une affaire qui concerne une entreprise de jeux vidéo, qui était une affaire de harcèlement. Donc c'est partout, dans tous les lieux de pouvoir, il y a un besoin d'exemplarité et aussi de protection des femmes. C'est ça que ça exprime. On trouve là encore la même radicalité avec des choses excessives, bien entendu. La mairie de Paris n'est en aucun cas pédolande. C'est un slogan qui est totalement excessif, au même titre que moi je ne dis pas Darmanin violeur. Darmanin n'a pas été condamné pour viol, donc je ne dis pas Darmanin violeur. Mais ces phénomènes d'excès, de radicalité, ils ont toujours été présents et ils arrivent quand il y a un mur en face de vous. Voilà. Les femmes pensent qu'aujourd'hui elles se heurtent à un mur d'incompréhension sur ce qu'elles revendique et explique depuis MeToo.
Alors justement, il y a effectivement à travers ces oppositions, ces manifestations, une évolution de la société qui s'exprime. Et en même temps, on voit que c'est un combat qui clive encore terriblement. Les réactions, vous le disiez, ont été très violentes hein, en ce qui concerne la mairie de Paris, Alice Coffin, qui est l'une des deux élues en première ligne dans cette affaire. Christophe Girard est placée désormais sous protection policière. Donc c'est un engagement, une forme de militantisme qui se paye tout de même très cher et qui n'est pas encore suivi massivement, on va dire, par la société.
Non, mais je crois il faut pas imaginer que la lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes, l'exigence du consentement dans les relations sexuelles, la dénonciation des hommes violents et des prédateurs est consensuelle. Ce n'est pas ça. Il y a des femmes qui revendiquent, il y a des hommes féministes qui les soutiennent, qui accompagnent leur combat. Fort heureusement, ils sont nombreux. Et puis, il y a une résistance et une indifférence aussi à ces sujets. Vous savez, le retour de bâton est toujours attendu dans les combats féministes. On sait qu'à un moment donné, toute avancée va se payer d'un certain point de vue d'un retour de bâton. Ce retour de bâton, ce que les Américaines appellent le backlash, qui est identifié depuis bien longtemps, ce retour de bâton, il se fait toujours de la même façon par une disqualification des féministes. Je ne suis pas d'accord avec la manière dont Alice Coffin et Raphaël Rémy-Leleu ont mené leur dossier d'un certain point de vue. Je pense que tous ces sujets-là auraient dû être traités et réglés au moment de la composition des listes et pas après dans la façon dont elles ont été réglées. Mais c'est pas pour autant que ce qu'elles disent ou ce qu'elles demandent n'est pas légitime et ça ne justifie en rien le torrent de haine sexiste et lesbophobe qui s'est déversé sur elles. Donc moi, je défends toujours les féministes les plus radicales parce que si elles ne sont pas défendues, c'est toutes les femmes qui ensuite sont victimes derrière de ce qu'elles ont reçu. Donc oui, on est dans une période charnière et dans les périodes charnières, les confrontations sont un peu plus tendues. C'est le cas et il faut que les institutions et la société comprennent ce qu'il leur est demandé, quel est l'enjeu de tout ça. Sinon, on va continuer d'être dans des provocations, puisque la nomination de Gérald Darmanin est pour moi une véritable provocation. On va continuer dans des provocations et la provocation entraîne des réactions. Et ces réactions sont elles aussi parfois jugées comme excessives, mais elles sont là, elles sont légitimes.
En même temps, Laurence Rossignol, quand Anne Hidalgo, qui pour le coup, je pense, considère être féministe, dit à propos de Christophe Girard, le droit est piétiné par la rumeur, les amalgames et les soupçons, vous comprenez ce qu'elle veut dire ou elle se trompe complètement?
Je pense qu'on est dans des affaires où il y a d'un côté le droit et de l'autre côté l'exemplarité, la compatibilité d'un certain nombre de positionnements politiques, de personnes avec leur histoire, avec la compatibilité avec le projet qui est porté. Je sais qu'Anne Hidalgo est une femme féministe, qu'elle porte un projet pour Paris qui est un projet qui est féministe. Elle est exemplaire dans son rapport moral, c'est une femme qui est très morale. Les gens sont parfois pris dans des conflits de loyauté divers. Et je pense surtout que cette affaire aurait dû être réglée avant. Moi, j'ai été membre de nombreux exécutifs locaux. Je pense que quand les gens ne peuvent pas cohabiter sur une liste, il faut qu'ils règlent ce problème-là avant de passer devant les électeurs.
Dernière chose, rapidement, Laurence Rossignol, pour ce qui est de Gérald Darmanin, il y a vraiment cette volonté affichée hein, de ne pas le lâcher, c'est assumé. Vous qui êtes engagée dans le combat féministe depuis longtemps, que pensez-vous de cette forme de militantisme et dans quelle mesure c'est une évolution et une évolution souhaitable ?
Écoutez, côté, c'est une forme de militantisme qui peut parfois choquer, qui parfois n'est pas au bon endroit au bon moment, on peut le remarquer, mais pour autant qui est adapté avec la violence symbolique de la présence de M. Darmanin, du choix du président de la République, d'avoir nommé comme ministre de l'Intérieur un homme mis en cause dans une affaire d'abus de, ad minima d'abus de confiance sexuelle, donc de relations sexuelles obtenues comme faveur. Donc, cette surdité du président de la République, cette indifférence au combat MeToo, cette insincérité quand même, parce que depuis 3 ans qu'il ne défend à la soi-disant grande cause du quinquennat, il a montré en une demi-minute qu'en fait, il n'avait aucune fidélité à ce qu'il défendait. Et que la grande cause du quinquennat n'est qu'en fait une affaire de communication, mais que quand il est à un moment où il doit choisir de nommer un ministre de l'Intérieur qui est un homme mis en cause dans une affaire sexuelle, eh bien, ça ne lui pose pas de problème de mettre à la tête de la police un homme sous enquête pour des tels faits. Ce n'est pas un bon message, et après, c'est normal que les femmes ne se laissent pas faire. Vous savez, quand on parle dans le vide longtemps, on crie de plus en plus fort.
Merci.
Pour se faire entendre. On en est là.
Merci Laurence Rossignol, présidente de l'Assemblée des femmes, sénatrice socialiste de l'Oise et ancienne ministre des Droits des Femmes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous poursuivons cette discussion après 8h à 8h20 avec le politologue Olivier Roucan. Le journal dans un instant.